Vous le savez, Jésus aime les histoires et souvent pour expliquer des choses un petit peu difficiles, il ne répond pas directement à la question, mais il va dire, je vais vous raconter une histoire. Et il n'y a pas que les enfants qui aiment les histoires, je pense que nous aimons tous les histoires. Et le texte qui vient d'être lu est une parabole, c'est une histoire, l'histoire de deux hommes, l'histoire de deux adorateurs qui sont présentés là, et puis on pourrait dire deux membres d'église, voilà. Et donc je pense qu'on va pouvoir facilement s'identifier au personnage de cette histoire. Au début du chapitre, Jésus avait déjà raconté d'autres paraboles. Par exemple, lorsqu'il enseigne sur la prière, Jésus le fait en racontant une histoire ou même en donnant lui-même l'exemple d'une prière, avec le fameux Notre Père. Au début du chapitre 18, il a raconté l'histoire de la veuve et du juge pour montrer qu'il ne fallait pas se relâcher dans la prière, qu'il fallait être persévérant. Mais voilà que maintenant Jésus va raconter cette autre histoire de ces deux hommes, de ces deux adorateurs. Et avec cette nouvelle parabole, eh bien, il va nous parler plus de l'état d'esprit de celui qui adore, des motivations de celui qui adore. Et d'ailleurs, on n'a pas lu le verset 9, mais vous pouvez maintenant regarder le verset 9 de ce texte, parce qu'on nous dit pourquoi et pour qui Jésus dit cette parabole. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ah, déjà là, on a déjà le contexte qui est bien placé. À qui s'adresse cette parabole? À des personnes qui se croient justes, sans prendre soin des autres. Et ces deux personnages, on nous présente, c'est un pharisien et un publicain. D'abord, au verset 11, on nous dit que ce pharisien était debout, qu'il priait en lui-même, et on nous donne le contenu de sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Vous savez ce que signifie pharisien? Pharisien, ça signifie le séparé, celui qui est séparé. Alors on peut interpréter de différentes manières ce terme de séparé. D'abord, on peut voir ça comme quelqu'un qui se sépare du péché. Et on a l'image des pharisiens que ce sont des gens très très stricts, hein? Donc des gens qui veulent vraiment se séparer du péché, mais par une rigueur dans la pratique. Ils vont donc s'efforcer de faire des choses scrupuleusement, de peur de s'approcher du péché. Mais on a aussi une autre manière d'interpréter cela. Le séparer, on peut voir aussi de quelqu'un qui se sépare en ce qui va distinguer dans les lois ce qui est bien. Et il va insister sur les lois. Dans les évangiles, nous avons Jésus qui va condamner non pas le pharisianisme, mais le pharisaïsme, c'est-à-dire le danger permanent qui menace tous ceux qui ont un esprit religieux lorsqu'il va lier sa quête de Dieu à une pratique de la loi. Et Jésus va dénoncer ce type de pratique, mais pas les pharisiens en général. D'ailleurs, il y a eu des bons pharisiens, par exemple. Il y en a qui ont invité Jésus à leur table, mais il y en a aussi qui ont pris parti pour Jésus, qui l'ont défendu d'ailleurs contre Hérode, ou certains ont embrassé d'ailleurs la foi chrétienne. Donc ce n'est pas le pharisien en tant que tel qui est dénoncé par Jésus, mais cet esprit de pharisianisme, c'est-à-dire de vouloir toujours mettre la loi en avant. Alors bien sûr, ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est le contenu de la prière de ce pharisien, et le contenu de cette prière nous dit beaucoup de choses sur cet homme, et notamment sur sa motivation. Pourquoi le pharisien est venu prier Dieu? Alors c'est vrai que sa prière commence par « Je te rends grâce », donc ça c'est plutôt bien, hein. « Je te rends grâce », mais « Je te rends grâce » pourquoi? « Je te rends grâce Dieu de ce que je suis hein, ou que je ne suis pas. » C'est-à-dire que c'est une manière détournée d'attirer l'attention sur lui-même, en fait. Merci Seigneur de ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Il se croit juste, puisqu'il va traiter les autres d'injustes, de ravisseurs, d'adultères. C'est donc une prière de comparaison. Il va dire merci, parce que quand je me compare, ouf, je vois que je ne suis pas si mal que ça. Il va dire oui, je ne suis pas comme les autres, alors merci. C'est curieux comme prière. Hein ? En fait, le culte devient un culte pour lui-même. En fait, le culte et sa prière, c'est l'occasion de se valoriser devant Dieu, de faire remarquer à Dieu qu'il est bien, en fait. Vous savez, on peut toujours se comparer avec des gens qui ont plus de difficultés que nous, des gens qui sont pires que nous. Et alors, on se rassure en disant « Ah ben oui, mais je suis quand même meilleur que celui-là. » Par contre, les autres qui font des choses peut-être un peu plus pour les autres que nous, là, on ne se compare pas avec eux, on essaye de ne pas y penser. Lorsque le culte devient pour nous, il est détourné de ce qui fait la beauté du culte, c'est-à-dire tourné vers Dieu. Son adoration est motivée par son intérêt personnel. Il ne parle que de lui dans cette prière, et lorsqu'il parle des autres, c'est pour les dénigrer. C'est pour leur dire tout le mal qu'ils pensent d'eux. Tout indique dans cette prière qu'elle est complètement détournée. Regardez d'abord son attitude. Bon, il est debout. Bon, il n'y a peut-être pas de mal de prier debout, hein. Mais le fait d'être debout peut-être dénote aussi une signification. Quand je suis debout, je domine un petit peu, je vois un petit peu les choses. Et l'attitude de quelqu'un qui est debout, c'est parfois l'attitude de quelqu'un qui est un petit peu un petit peu au-dessus des autres. Il est rempli de lui-même, cet homme. Il semble dire « Ne m'approchez pas, car je suis saint. Et je préfère me séparer de l'autre. » Si vous prenez avec moi le texte d'Ésaïe, Ésaïe 65, versets 1 à 5. Peut-être pour nous donner un éclairage nouveau aussi sur cette manière-là. C'est Dieu qui parle et qu'il va dire par la voix du prophète Ésaïe. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voilà Dieu qui compare ces discours-là de fumée dans ses narines. Vous savez, quand on est envahi par la fumée, quand on s'approche trop près d'un feu et que cette fumée rentre dans nos narines, ce n'est pas vraiment une bonne expérience, hein. On essaye d'échapper à cette situation. Le pharisien, dans sa prière, il ne juge pas son caractère d'après celui de Dieu, mais d'après celui des autres hommes autour de lui. Alors, par définition, ses pensées ne sont plus tournées vers le ciel, mais vers la terre et vers ses semblables. Et bien sûr, lorsqu'on regarde les autres, eh bien, on va vite vouloir se comparer. Et le verset 12 va décrire ses bonnes œuvres. Il va dire à Dieu, comme si Dieu ne le savait pas, hein, « Voilà ce que je fais pour toi. » Et derrière, c'est comme s'il disait, hein, « c'est bien, hein. » Il cherche l'approbation, il cherche à être encore plus élevé que ce qu'il n'est. Cet homme va se contenter de forme extérieure de la religion. Son cœur n'est pas touché, il n'est pas débordant d'amour. Ça, c'est ses paroles qui nous l'indiquent. Il le fait aussi pour être vu. Et sa justice, on pourra dire, lui est propre. Le pharisien se juge d'après les autres et il juge les autres d'après lui-même. C'est donc sa propre justice qui va le pousser à accuser les autres et à les condamner comme transgresseurs de la loi de Dieu. Ellen White écrit dans les paraboles, à la page 126, « Il va manifester ainsi l'esprit de Satan, puisque Satan est qualifié comme l'accusateur des frères. Et ce pharisien, en accusant les autres d'être mauvais, il joue le rôle que Satan joue. » Impossible donc, avec de tels sentiments, d'entrer en communion avec le Seigneur et de vivre une véritable adoration. Et d'ailleurs, à la fin de la parabole, Jésus nous dit, je vous le dis, le publicain va descendre de sa maison justifié plutôt que l'autre, parce que lui va se retirer chez lui, privé de la bénédiction divine, et avec un sentiment un petit peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, intéressons-nous maintenant au publicain. On nous dit que ce publicain se tient à distance. On nous dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qu'il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors, qu'est-ce qu'un publicain ? Un publicain, on peut dire que c'est un petit subalterne. C'est un collecteur d'impôts méprisé, tenu à l'écart. C'est la personne que les gens, de manière générale, n'aiment pas, préfèrent éviter, qualifié parfois de traître, parce qu'il travaille pour l'ennemi. Il récolte des sous, alors que les sous, on aimerait bien les garder. Eh bien voilà, les impôts, nous les prennent. Et ce publicain-là, le mal-aimé, on pourrait dire, eh bien, il se tient à l'écart. Car quelque part, il a l'impression de se trouver indigne de participer au culte avec les autres. Alors, il est à l'écart. Cet homme ne va pas se comparer aux autres. Cet homme est seul face à son Dieu. Et il ne souhaite qu'une seule chose, c'est recevoir le pardon et la paix. Et le verset 14 nous dit que celui-ci est descendu de sa maison justifié. Il fut béni. Et sa prière a donc été exaucée. Alors, quelle application pouvons-nous faire, même si j'ai dit au départ qu'on peut facilement se reconnaître dans l'un ou dans l'autre des personnages ? Nous qui venons adorer Dieu dans cette église. Deux types d'adoration, un petit peu comme Caïn et Abel. Caïn qui se croyait juste, Abel qui se sentait perdu. Et le Seigneur qui accepte l'offrande d'Abel, mais qui n'accepte pas celle de Caïn. On peut aussi parler de l'expérience de Pierre. Au début, Pierre avait une attitude un petit peu de prétention, une attitude un peu identique aux hommes qui se croient forts. Pierre qui dit à Jésus, « Non, non, tu penses que je ne suis pas capable, mais j'en suis capable. » Je ne serai pas ce que tu me dis que je serai. Je ne vais pas te trahir. Je serai plus fort que les autres. Lorsque quelqu'un a confiance en ses propres forces, qui va oser dire à Dieu, non, non, tu te trompes. Tu penses, mais je suis fort. Par contre, quand le coq a chanté comme Jésus l'avait dit à Pierre, lorsque Pierre va regarder le regard de Jésus, va croiser le regard de Jésus, alors on nous dit que Pierre va pleurer. Et il y a un tournant dans son expérience religieuse, parce que de fort qu'il pensait être, il réalise qu'il est faible. Et il réalise sa dépendance profonde avec Dieu. Et il réalise que Dieu l'aime aussi dans sa faiblesse. Repentance profonde comme ce publicain, se frapper la poitrine, c'est un symbole d'humilité, reconnaître qu'on est faible. Eh bien, ce publicain va trouver miséricorde, il va trouver une réponse auprès de Dieu. Jésus va investir Pierre d'une mission, il va dire « paie mes brebis », c'est-à-dire « prends soin de mon troupeau, c'est toi maintenant qui va le faire ». Et le mal qui fit tomber Pierre et qui va priver aussi le pharisien de la communion avec Dieu, ça cause aussi la ruine de plusieurs personnes, des milliers de personnes encore aujourd'hui. Ce mal, c'est l'orgueil, la suffisance, l'autosuffisance. De tous les péchés, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à vaincre, l'orgueil. C'est celui qui était le péché qui était dans le cœur de Lucifer, qui est devenu Satan. Notre unique sécurité, c'est de ne dépendre que du Christ. Voilà la sécurité par excellence. Et lorsque je veux moi-même faire ma propre sécurité, c'est là que je suis en difficulté. Et l'expérience de Pierre doit nous encourager, car malgré sa faute si grave, qui est de trahir Jésus, de dire non, je ne le connais pas, eh bien Pierre ne fut pas abandonné à son sort, et Jésus est resté là. Dans Luc 22, au verset 32, Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors oui, pour s'enfuir vers un lieu de refuge, il faut prendre conscience du danger. Celui qui ne ressent pas la douleur de ses blessures n'éprouvera pas le besoin d'être guéri. Alors, rappelons-nous de ce message de l'ange à Laodicée. Apocalypse chapitre 3, si vous pouvez lire avec moi, versets 17 et 18. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu nous accorde sa grâce, son pardon, et qu'il nous pardonne de nos excès d'orgueil, de prétendre pouvoir nous en sortir nous-mêmes dans nos situations. Que nous puissions, Seigneur, vivre une véritable adoration, celle qui consiste à te regarder toi et pas nous-mêmes, à nous humilier devant toi et à simplement accueillir la délivrance qui vient de toi. Amen.